Mais l'homme est un animal religieux.
L'homme est un animal religieux, Aristote...
C'est pas un compliment, mais...
Non, c'est pas du tout un compliment. Aristote, que je n'arrête pas de citer, que je vénère dans le roman, il a dit une seule fois une chose qui est vraiment une grosse... Bon, faut pas dire bourde quand il s'agit d'Aristote, mais enfin, ça va pas. On dit, l'homme est un animal qui désire le savoir. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance. Désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Alors, le mouvement ouvrier, au départ, par exemple, il y avait une attitude très critique. Quand vous prenez les deux premiers vers de l'International, qui est quand même le chant de la Commune, hein, c'est le deuxième couplet. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, d'accord, excite la religion, ni César, excite Napoléon III, ni tribun, excite Lénine. D'accord ?
Ah, j'avais jamais pensé à ça.
Eh oui, mais les gens y pensaient. Oh, les gens avaient ce besoin de croyance. Voilà. Alors, en quoi sommes-nous plus sages que mai 68 ? Je crois que peut-être le résultat, à la fois des suites de mai et de l'évolution dans les pays de l'Est et de l'évolution générale de la société, c'est que les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques.
Ah,
ça c'est très important. Alors il y a une frange qui cherche toujours la foi, et là vous avez la scientologie, vous avez les sectes, vous avez tout ce que vous voulez, ou le fondamentalisme, mais ça c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, pas chez nous, pas tellement quand même. Bon, mais les gens sont devenus beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques, ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que... C'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens. Il dit, nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action.
Les seuls ?
Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable.
Ah, oui.
Il dit, les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire, parce qu'ils se disent, il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. Bon. Or, précisément, actuellement, on traverse aussi une phrase d'inhibition, ça c'est sûr. Les gens, bon, un chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, effectivement, il n'y a plus de grands discours, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais. Et c'est ça qui n'existe pas, du moins, n'existe pas dans une projection sociale, si je peux dire.
C'est un pays extraordinaire ici, j'adore.
Vous êtes psychanalyste aussi,
hein, oui.
Ce qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne.
Peut-être, oui.
Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce
délirons.
Nous qui désirons.
Ah, qui désirons sans fin, oui. Nous qui délirons sans fin, oui.
Nous qui désirons sans fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon, il y a un irréductible désir, et encore. Là, vraiment, je ne sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On ne parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray, dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé, qui était de la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qui décrit, quelqu'un qui avait épousé une petite duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer de se voir. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en un sens une grande conquête. Pas question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter, individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Mmh.